Nous allons ouvrir nos Bibles et reprendre une série que nous avions commencée et que nous avions dû arrêter. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 5. Le seul verset 6 nous intéresse, mais nous prenons tous les contextes. Matthieu chapitre 5, du premier verset au sixième. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, d'autres versions disent, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Et verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Il y a plusieurs semaines, nous avons commencé cette série, et dès le départ, je pense en deux séances, nous avons d'abord posé les bases en parlant de quelque chose que plusieurs cherchent et ne trouvent pas forcément, le bonheur. Parce que ces béatitudes ont comme centre les bonheurs. Heureux, heureux. Et nous avons essayé de définir c'était quoi les bonheurs, comment les trouver, où les gens les cherchent et malheureusement on ne les trouve pas. Et après ces deux séances introductives, nous avons abordé la première béatitude. Heureux les pauvres en esprit. Et nous avons essayé d'expliquer c'est quoi être un pauvre en esprit. Et nous avons aussi abordé cette seconde béatitude, une béatitude paradoxale, où deux mots qui ne peuvent pas être placés côte à côte les sont. On dit heureux, mais les affligés. Heureux, ceux qui sont tristes. Y a-t-il quelque bonheur? Y a-t-il quelque sentiment de réjouissance que l'on peut retirer de la tristesse? Et nous avons montré comment de la prétendue tristesse pouvait découler un bonheur. Et puis nous avons abordé aussi en deux séances les bonheurs attachés à être doux. Et nous avons dit que la douceur était présentée dans le monde comme étant la faiblesse. Le monde aime les gens forts, les gens rugueux, les gens qui savent s'imposer. Et pourtant la Bible dit qu'il y a un bonheur attaché au fait d'être doux. Et aujourd'hui, nous abordons cette quatrième béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. J'aimerais d'abord revenir sur les sermons sur la montagne. Lui-même, les sermons sur la montagne est un joyau, un bijou de la marche chrétienne. C'est même un peu le fondement de toute marche chrétienne. La plupart des théologiens parlant des sermons sur la montagne, mais spécialement des béatitudes, disent que c'est la loi fondamentale de la vie chrétienne. C'est la constitution de la vie chrétienne. Tout véritable enfant de Dieu, toute personne qui prétend être chrétienne, doit non seulement lire ses sermons sur la montagne, doit les étudier et essayer de retrouver tout ce qu'il y a dedans. Aussi seulement nous pratiquions les un tiers de ce qui est dedans, combien notre vie serait meilleure. Combien notre vie en société serait différente. Il y a quatre choses importantes à mentionner et à rappeler en rapport avec ces sermons, ces discours appelés sermons sur la montagne. Premièrement, je l'avais mentionné lors de la première séance, mais j'aimerais revenir. La première des choses qui frappe, c'est le moment où ce discours est annoncé. Tout au début de son ministère, alors qu'il vient d'avoir, permettez-moi les termes, ses premiers adhérents. Ils ne connaissent rien de lui. Il veut leur imprimer sa vision. Il veut leur imprimer sa pensée maîtresse, les choses essentielles auxquelles il croit. Ce qu'il veut dire, c'est à ceci principalement que je tiens. Si vous oubliez tout, retenez d'abord ceci. Et il commence au début pour marquer leurs esprits, afin que jamais ils ne puissent oublier cela. Deuxième des choses qui marquent, ce n'est pas mentionné, mais le sermon sur la montagne va de Matthieu 5, 6 et 7. Les théologiens disent que ce discours a duré minimum 7 heures. Certains disent que ça allait même jusqu'à 8 heures. Ah, si je faisais un culte de 8 heures, non pas un culte de 8 heures, mais 8 heures d'enseignement. J'aimerais bien essayer un jour. On donnera la permission à ceux qui vendent de temps en temps de venir, sinon on commencera à suivre les cultes vers les 3 heures, ça sera Hallelujah. Ah. 7 heures d'enseignement. Ils sont scotché à ses lèvres. Il leur communique la parole de vie. La troisième des choses, c'est l'impact de son discours. L'impact de son discours. Matthieu chapitre 7, versets 28 à 29, dit ceci. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Frappée de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. La version française courante dit, tous restèrent impressionnés par sa manière d'enseigner. Tob, aux traductions écuméniques de la Bible, dit, les foules restèrent frappées de son enseignement. Mais le terme utilisé là pour dire, ils étaient frappés par son enseignement, c'est un terme grec qui veut dire être marqué au fer rouge. Ce n'est pas le genre d'enseignant qui, quand il a parlé, après on oublie. Vous êtes marqués par ce qu'il a dit. Les traces restent après les temps. Ils sont marqués. Et pourtant, ils ont suivi toutes sortes de prédicateurs et d'enseignants. Et la Bible n'hésite pas à comparer. Parce qu'il enseignait différemment de certaines personnes, différemment de leurs scribes. La terre a certes porté de nombreux penseurs, de nombreux discoureurs, de nombreux hommes qui se sont levés. Je partirai de Platon à Socrate. Je passerai par Kizerbo. Je ne manquerai pas de citer Wole Soyinka. Je ne manquerai pas de citer Laboutansi juste à côté. Et si je suis un peu patriote, je marquerai Zaminga Batukezanga. Des gens qui se sont levés, qui ont eu à parler. Mais malgré toutes ces personnes, il y a eu un quand il parlait, quelque chose s'est passé. Il était la parole, mais la parole faite homme. Quand il ouvrait la bouche, quelque chose s'est passé. Pourquoi? Parce que tous, ils étaient hommes. La différence, c'est que lui, il était Dieu. Il avait l'apparence d'un homme ordinaire pour les gens qui l'écoutaient. Pour certains, c'était le fils du charpentier. Mais son discours était plein de contrastes, simple et puissant. Il avait quelque chose d'extraordinaire. Il parlait avec sagesse et autorité. Jean chapitre 7, au verset 46, nous parle de la réaction des agents commis, des huissiers, envoyés avec un mandat, tel que vous êtes partis, revenez avec cet homme menotté. Mais quand ils rentrent, au lieu de revenir avec un homme menotté, ils reviennent seuls. Et ceux qui les avaient commissionnés leur posent la question, mais où est-il? Écoutez les rapports, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Au lieu de ramener quelqu'un enchaîné, il ramène un rapport quand il parlait. Seigneur, aide-moi à parler comme toi. Dans Luc chapitre 24, au verset 32, la Bible nous montre que son discours ne cherchait pas beaucoup l'intellect. Certes, il cherchait à augmenter les connaissances, mais il cherchait à toucher l'homme dans son intérieur. Les disciples, sur le chemin d'Emmaüs, n'ont-ils pas dit entre eux, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils parlaient? Et quand il parlait, quelque chose s'est passé. Français courant dit, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait? Les semeurs dit, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il parlait? Comment pouvait-il en être autrement? Comme je l'ai dit, n'était-il pas la parole faite chair? On voyait simplement et distinctement que celui qui parlait, ce n'était pas quelqu'un qui interprétait, c'était le législateur lui-même. C'était celui qui avait inspiré la parole et qui parlait lui-même. C'était la parole parlée. Quatrième chose qui frappe à l'étude et à la lecture des béatitudes, c'est une chose qui arrive juste au début. C'est la nature que les béatitudes communiquent à celles et à ceux qui les vivent, et les conséquences que ces béatitudes pratiquées peuvent avoir dans notre vie. Remarquez, après qu'il ait mentionné les béatitudes, du verset 1er jusqu'au verset 12, directement il fait une mention du verset 13 jusqu'au verset 16. une mention que je peux dire, résumée en trois phrases. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et il va plus loin. Il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, si vous pratiquez ces choses que je viens de mentionner, les béatitudes, vous aurez un impact dans la société. Il est étonnant. Il parle à un groupe d'hommes qui habitent à peine cette contrée. Il ne leur dit pas, vous êtes les seuls d'Israël. Il leur donne une possibilité d'impact plus loin. Et pourtant, ce sont des gens qui habitent un coin. Il dit, vous êtes les seuls de la terre. Ils habitent une petite portion. Il dit, vous êtes la lumière, non pas de Jérusalem, mais la lumière du monde. Seigneur, aide-nous à savoir que si nous vivons ces choses, nous aurons un impact. Un impact qui ira très loin. Et par rapport à cette béatitude, j'aime Jésus comme enseignant. Il avait la justesse des mots. Il savait quoi dire, quand dire et comment les dire. Ce n'est pas un hasard. Quand il a voulu enseigner sur la justice, montrer l'importance de celle-ci, il a choisi deux besoins physiologiques, deux besoins attachés à l'homme. Il aurait pu dire « Heureux ceux qui aiment la justice ». Mais dans sa tournure pour montrer l'importance, il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Faim et soif de la justice. Deux besoins qui ne demandent qu'à être satisfaits. Deux besoins difficiles à reporter la satisfaction. Si on reporte, on ne peut pas reporter indéfiniment. Moi, quand je n'ai pas mangé à l'heure, je commence à avoir des vertiges. Kizunguzungu. Mais quand ça devient fort, même les mots kizunguzungu, je n'arrive pas à les dire, j'ai dit zunguzungu. Tellement ça atteint jusqu'aux lèvres. Chez moi, dans ma tribu, les gens qui ont très faim et ont des vertiges, on appelle ça kipongoshi. Hypoglycémie. Les taux de sucre baissent parce que le corps a essayé de prendre partout. Faim. Quand j'ai faim, je commence à bailler. Quand j'ai faim, ma capacité de concentration, même quand j'ai un entretien, ça ne tient plus. Si tu veux que je te sois utile, laisse-moi aller recharger les batteries. Et je te reviendrai spirituellement fort et physiquement fort. Heureux ceux qui ont faim. Mais il dit faim. Non pas de la nourriture, mais faim de la justice. Faim. Je vois de certaines personnes affamées. Quand on leur donne la nourriture, quand elles mangent, elles tremblent. Ma douce oiseau les fongouami. Faim. 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 Mais Jésus dit, avoir faim, mais faim de quoi? De la justice. Mais il ne laisse pas seulement les mots faim, il ajoute aussi soif. Il est prouvé que l'homme ne peut pas vivre au-delà d'un certain seuil sans boire de l'eau. Comme je dis, c'est un besoin aussi, on ne peut pas reporter. Moi, quand je fais longtemps, je n'ai pas bu un peu d'eau, je commence à avoir des hoquets. Message du corps pour te dire, apporte-moi quelque chose. D'autres ont les lèvres qui sèchent. Et Jésus dit, heureux ceux qui ont des hoquets, mais qui cherchent non pas l'eau, qui cherchent la justice. Faim et soif de la justice. Il veut dire, il y a un bonheur à ressentir le creux que l'on ressent physiquement pour la faim, mais que je veux que vous puissiez ressentir pour la justice. Le vide que l'on ressent quand on n'a pas pris de l'eau. Je veux que vous ressentiez ce vide, mais attaché à la justice. Faim et soif. Faim et soif d'avoir cette chose importante. Faim et soif de cet apport extérieur obligatoire à cause d'une carence prolongée qui peut amener à la mort. Et comme je l'ai dit, cette faim et cette soif ne sont pas en rapport avec un besoin physique, c'est en rapport avec quelque chose d'immatériel. Mais ô combien importante la justice. La justice, un besoin individuel, nous en avons besoin. La justice, un besoin dans la société. La justice, un besoin dans nos pays. La justice, un besoin dans nos entreprises. Faim et soif, mais dès la justice. Ce matin, j'aborderai simplement deux aspects en introduisant. J'essaierai de parler de c'est quoi la justice. Je vais essayer, parce que c'est un terme tellement élevé, que le petit bonhomme que je suis, je ne sais l'aborder avec profondeur. C'est quoi la justice? Je parlerai de la nécessité de la justice. Qui en a besoin? Et pourquoi? Mais j'essaierai aussi de parler de la difficulté à avoir cette vertu. Et surtout la voir en permanence. La grande et première question, qu'est-ce donc la justice? Je prends trois directions pour essayer de définir c'est quoi la justice. La justice, c'est cette vertu morale qui amène à reconnaître et à respecter les droits et les besoins de l'autre, conformément au principe de l'équité. J'aimerais le répéter. C'est cette vertu morale qui amène, un, à reconnaître, et deux, à respecter les droits et les besoins de l'autre, conformément au principe de l'équité. Non seulement reconnaître, parce que certains reconnaissent, mais ne respectent pas. Il faut non seulement reconnaître cela, mais aussi respecter cela. Deuxièmement, la justice, c'est ce qui est conforme au respect des droits d'autrui et de l'équité. Ce qui est conforme au respect des droits d'autrui et de l'équité. Et troisièmement, la justice, c'est cette vertu morale qui amène à être juste, à traiter l'autre tel qu'il le mérite, à donner à chacun son dû. Il y a des choses que nous devons à d'autres. Et quand il y a justice, nous leur donnons cela. Justice, une réalité que nous sommes appelés à comprendre. Dans Proverbes au chapitre 2, verset 9, les sages disent, il nous faut comprendre la justice. Il nous faut fuir cette chose, savoir de quoi elle est faite, qu'est-ce qu'on peut la voir. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. C'est que la justice n'est profitable principalement qu'à nous. Je reviendrai sur cela, je pense, dans quelques semaines, parce que dimanche prochain, c'est le dimanche des Pâques. La justice n'est pas profitable à Dieu. Dieu n'en a pas besoin. La justice est profitable à moi, mais indirectement. Je vis avec d'autres personnes, et si je sais reconnaître leurs besoins, leurs droits, et si je sais les leur donner, ça va me revenir. Job chapitre 35, versets 5 à 8. Élihu ouvre la bouche et dit, « Considère les cieux et vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pèches, d'autres versions disent, si tu es injuste, quel tort tu lui causes? Et quand tes injustices vont se multiplier, que fais-tu du mal aux cieux? Verset 7, si tu es juste, qu'est-ce que tu donnes aux cieux et à Dieu? Qu'est-ce que Dieu reçoit de ta main à cause de ta justice? Mais écoutez ce que le verset 8 dit. Ta méchanceté, d'autres versions disent, ton injustice ne peut que nuire à ton semblable. Ça nuit à ton prochain. La fin du verset dit, ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme. Pas utile directement à Dieu. Dieu n'en a pas besoin. Cette justice à reconnaître au travers des droits et à donner à l'autre, t'es profitable à toi ainsi qu'à moi. Là où il y a justice, il y a deux incontournables. La première des choses, là où il y a justice, on est conscient de l'existence de l'autre avec ses besoins. On est conscient de l'existence de l'autre avec ses besoins. J'aimerais me poser, je n'aimerais pas m'exclure de ce message. J'aurais dû m'asseoir moi-même et l'entendre. J'aimerais nous poser la question, Qui est l'autre pour toi? Qui est l'autre pour toi? Pour certains d'entre nous, l'autre et ses besoins n'existent pas. Le seul besoin qui existe, ce sont les miens. Les gouvernants, à leurs yeux, nous n'existons pas. Ce sont leurs besoins. Qui est l'autre pour toi? Pour certains, l'autre n'existe pas. Pour quelqu'un d'autre, l'autre existe, mais l'autre est un moyen que je peux utiliser pour que moi je devienne heureux. J'ai aimé cette belle phrase qu'un philosophe chrétien a dit. Il a dit, on ne peut pas être heureux en étant tout seul. On ne peut pas être heureux en étant tout seul. On ne peut pas créer son bonheur alors que tout autour de soi, tout le monde pleure. Seigneur, aide-nous à nous poser la question, qui est l'autre pour toi? Qui est ton mari? Est-ce quelqu'un que tu cherches à rendre heureux ou une vache à lait? Qui est ta femme? Est-ce que quelqu'un qui existe avec ses besoins? J'en ai parlé ici lors de la réunion des couples. Que des couples qui ne vont pas, ou plutôt du séminaire, à cause de l'injustice. On ne voit que soi-même. L'autre n'existe pas. Elle fait de la fièvre 39,5, 40. Mais toi, tu es éveillé. Elle te dit, est-ce qu'on peut attendre dans 2 jours? Non. Moi, si j'attends dans 2 jours, je vais mourir. Quand prête à aller avec l'autre, quel que soit. Pourquoi? Parce que c'est mon besoin qui compte. Qu'importe l'état dans lequel tu es. Seigneur, s'il y avait moins d'égoïsme dans les couples, combien les choses iraient mieux. Si on pensait à l'autre, l'autre a des besoins. Il arrive des fois, je regarde dans des couples, l'homme qui s'habille comme un mannequin. Mais il est à côté d'une femme, vous vous demandez, c'est sa boniche ou quoi? Ces hommes qui travaillent, apparemment ils donnent tout l'argent à la maison, mais ils rentrent en achetant un journal, des revues, tu trouves ça où? Et elle, elle n'a pas ce désir d'acheter un journal et des revues. Deux besoins. Est-ce que le besoin de l'autre existe? Qui est l'autre pour toi? Pour d'autres, ils ignorent l'autre. La Bible dit, faites à autrui ce que vous voulez qu'on vous fasse vous-même. Là, il y a la justice. On est conscient de l'existence de l'autre avec ses besoins. Que des hommes et des femmes qui viennent à l'église, qui lèvent les mains. Et certains, quand ils lèvent les mains, j'ai envie de prendre leurs mains et les faire descendre. Ils paient des salaires de misère à leurs travailleurs. Quand je dis misère, c'est avec M majuscule. Et ils le font volontairement. Ces dames qui travaillent, et tu l'obliges, tu dois être là à 7 heures. Tu ne pars pas avant 17 heures. 42 000 francs congolais. Ces chauffeurs qui t'accompagnent, qui même des fois font des extras, et que tu ne considères jamais comme heure supplémentaire. Il est là, alors que tu es avec tes amis au resto. Vous mangez pour 300 dollars. Tu n'as même pas le temps de lui donner un 5 dollars. Pour lui dire, le temps que nous on mange, prends quelque chose. Et tu viens ici, tu lèves les mains à coubeta ou le kofio. Justice. Qui est l'autre pour toi? Qui est l'autre? Depuis que tu as ces travailleurs, depuis 10 ans, pas d'augmentation de salaire, même pas d'un dollar. Quand ils demandent augmentation, tu leur donnes un cours d'économie. C'est la précarité. Et cette précarité, c'est pour les autres, pas pour toi. Donnons-nous des gens qui pensent aux autres. Donnons-nous aux gens qui anticipent, qui voient les besoins des autres. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui dise Amen. Là où il y a justice, on est conscient de l'existence de l'autre et de ses besoins. Mais deuxièmement, là où il y a justice, le deuxième incontournable, on tient compte des besoins de l'autre et on cherche leur satisfaction. On dit de quelqu'un qu'il est juste lorsqu'il est animé par les principes de droit et d'équité. C'est-à-dire, à ses yeux, l'autre non seulement existe, mais a des droits. Des droits que je dois reconnaître et que je cherche à satisfaire. Genèse chapitre 6 au verset 9, parlant de Noé, dit qu'il était juste dans son temps. Oh, qu'est-ce que j'aime, 1 Samuel, au chapitre 24, Et 1 Chronique aussi, au chapitre 18, au verset 14, on parle. Waouh! David est pourchassé par Saül. Écoutez ce que Saül déclare. Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu es plus juste que moi. Pourquoi Saül a voulu tuer David, mais David s'est relevé. Il a dit, je ne te ferai pas ceci. Il tient compte de ses besoins. Mais quand l'autre passage parle, il dit, David conduisait Israël. Waouh! Il avait dit, il faisait droit et justice à tout son peuple. Vous savez, Dieu place certaines personnes devant pour le bien de tout le monde. Si seulement ceux qui sont devant peuvent penser aux besoins des autres. David conduisait Israël, il avait dit, il faisait droit et justice. C'est vrai, dans chaque société, il y a des classes. Mais il est bon que les inégalités ne soient pas trop fortes. Il arrive que certains ont trop et même ne savent que faire de cela. Et d'autres ont rien et même quelquefois moins que rien. Quand il y a trop d'inégalités dans une société, j'en parlais, et qu'il y a beaucoup d'injustices, vous ne savez pas. Vous créez des ressentiments. J'ai quelquefois vu à Kinshasa, quelqu'un est en train de rouler avec sa belle Mercedes et les gens qui regardent disent bon, c'est le grand Mkola pillage. Donc, mon pourquoi trop d'inégalités? Et les uns ruminent. Les uns ruminent. Ah, c'est pour cela que j'aimerais vous encourager. Je ne parle pas de cela comme un principe. Si vous avez la possibilité, faites de temps en temps du bien à ces gens. Je n'ai jamais oublié cette histoire que j'ai vécue, je pense en 2004 ou 2005, alors que ça avait bardé à Bukavu. Les gens ont commencé à marcher dans la rue. Je venais déposer mes enfants à l'école le matin. J'arrive juste en sortant 30 minutes après l'école, appelle pour dire on ne peut pas les garder. Parce que ça tire de partout. J'ai cherché à récupérer les enfants. On n'a pas même pu traverser vers Texafrique. Tellement il y avait des gens sur la route et on est allé se cacher. Pas très loin. Vers la gare centrale. Et puis vers 13h, 13h30, ça s'est calmé. Et on a commencé à rentrer en prenant des chemins détournés. On est passé quelque part derrière, Vélodrome. Et dès qu'on est sorti vers Okapi, j'ai regardé loin vers le marché de Delvaux. Waouh! C'était tout noir. À l'époque, j'habitais Massikita. J'ai dit, est-ce que je vais arriver? J'avais mes trois filles derrière. Elles étaient là. Je dois dire, j'aurais voulu être à leur place. J'aurais pas voulu être les papas. J'ai tremblé, mais je faisais le costaud. L'une m'a regardé, papa, tu as peur? J'ai dit, non. Parce que les papas sont costauds. Et dès qu'on s'est avancé, ces jeunes gens, communément appelés chègues, se sont avancés. Ils ont commencé à donner des coups. Je n'ai jamais oublié. Deux sont venus, ils ont dit, oh, nani pasta. Ils ont dit, oh, ako simba pasta, ako mona. L'un devant, l'autre derrière. Et ils m'ont aidé à passer. Et ça m'a étonné. Je me suis rendu compte que ces jours-là, que ces personnes prétendues mauvaises ont un cœur. Quand on a dépassé l'entrée de la maternité, j'ai fait sortir deux liasses de 12 500. Je l'ai redonné. Il a dit non, pasteur, yo l'ombara déjà. Toi, tu penses à nous souvent. J'étais étonné. Ils ont refusé. Abo inini, mbongo. Mbongo, M-B-O-N-G-O, Mbongo, l'argent, Nzimbo. Et ils m'ont dit, vas-y, est-ce que tu penses à l'autre? Toi, tu ne penses pas à l'autre. Tu verras un jour quand ça va barder. Tu ne penses pas à ton travailleur. Quand il vient te demander, patron, je suis malade. Donne-moi ne fût-ce que 5 dollars, je vais aller me faire. L'argent est dur à trouver. Et tu vas oublier une liasse de 100 dollars. 25 fois, ça fait combien? Et il voit ça. Quand tu viens dire, est-ce que mon accueil me dit, papa, n'a ma bolongo à tata n'a l'ail. A tel longi n'a mon accueil. Et quand il parle comme ça, il avait déjà appelé sa femme, maman, kolo pamboli biso ya kozongo. Mais si tu sais penser à l'autre, la même personne, l'autre, aide-moi à poser la question à ton voisin, qui est l'autre pour toi? L'abbé dit, ne vous lassez pas de faire le bien, vous moissonnerez au temps convenable. Proverbe chapitre 29 au verset 7 dit, le juste connaît la cause des pauvres. Celui qui est la justice connaît la cause des pauvres. Il sent le cœur des autres battre. Luc au chapitre 22, verset 50 à 51, nous parle de la présence parmi les Sanhédrins d'un homme détenteur de cette vertu. La Bible dit, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume des cieux. Et là déjà on voit un principe, la justice véritable ne peut habiter le cœur que d'un homme qui est attaché à Dieu. Sans Dieu, pas espoir de justice. Arimathée, cet homme d'Arimathée, Joseph, on dit qu'il était bon et juste. Matthieu chapitre 1, verset 19, sans citer les termes, nous parle aussi d'un homme détenteur de cette vertu. Joseph a découvert que Marie est enceinte. Certes, Marie dit que cela est venu du Saint-Esprit. Elle croit à la sincérité de Marie, mais il a difficile à avaler une telle chose. J'aime ce que la Bible dit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. En grec, ce terme-là veut dire un homme rempli de justice. La Bible dit, il se disposa à rompre secrètement avec elle et il ne voulut pas la diffamer. Je veux me séparer d'avec elle, mais je pense à sa réputation. Je pense à ce que l'on dira d'elle. Non, il ne faut pas compter sur ma bouche pour aller détruire sa réputation. Que des gens qui ne pensent pas à la réputation d'autres personnes, qui sont prêts à détruire. Je le disais il y a quelques mois ici en arrière, je suis dans la vue de l'église. Combien de gens détruisent les autres? Vous savez, dans notre culture à nous, africaine, surtout bantou, quand on dit que tu es voleur, c'est passable. Colérique, passable. Même impudique, c'est passable. Mais qu'on dise qu'il est sorcier. Sorcier. Chez les hommes, il n'y en a pas beaucoup, surtout vous les mamans. Oh, on a l'autre qui m'a kabonga, ça m'a commis ça, tu l'as dit, c'est un gaboué. Hein? Où est-ce que tu l'as dit? Et de ton rêve, par la perte de la réputation de quelqu'un. Je ne veux pas dire que Dieu ne parle pas par songe. Et quelqu'un peut être détruit. Et ok, ben, nana l'autre qui est ma belle, yonan y'a bandotuna. Ah, nous les pasteurs, l'autre, le pasteur, dans l'autre qui est torse nu. Deux fois, pasteur, torse nu, ça signe ma belle. Et l'autre a un torse nu. Je ne sais pas si le pasteur Atom s'expérimente cela. Quelquefois, c'est fatigant. Je ne dis pas que les rêveurs ne venaient plus au bureau. Mais tu as là-bas d'autres. Le même jour, pasteur, dans l'autre, mon lit, mon centre est tourné. Mon soeur est pasteur dans l'autre, ça me l'a saucé. Qui a vu Dieu et qui n'a pas vu Dieu? Pasteur dans l'autre, là, tu m'as grand comme bête, m'en confie. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Français courant dit un homme droit. Une autre version dit quelqu'un qui aimait la justice. Darby dit un homme juste. Il ne voulait pas la diffamer. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. Il se proposa de rompre secrètement avec elle. Et à ce niveau, j'aimerais mentionner deux absolus. Deux absolus. Le premier absolu, c'est que la justice n'est pas quelque chose que nous avons de manière innée. Nous ne l'avons pas de manière innée. Nous ne l'avons pas à la naissance. Nous ne l'avons pas automatiquement. L'homme naturel est égoïste. L'homme naturel est égocentrique. L'homme naturellement, il est centré sur ses besoins. Quelqu'un essayant de définir un égoïste, il a dit, est-ce un égoïste, c'est quelqu'un qui n'aime pas? Non. Un égoïste, c'est quelqu'un qui aime. Et même qui aime beaucoup, mais qui aime lui-même. Il a beaucoup d'amour, mais centré sur lui-même sur sa personne. L'homme naturel est égoïste. Ça commence dès le berceau. Obanabasaba, ange. Égoïste dès le berceau. Mauvais. Naturellement. Et ça, c'est un absolu. Nous ne sommes pas. La justice, ce n'est pas quelque chose que nous naissons avec. Et si déjà l'homme naturel sans Christ manque de justice et rempli d'égoïsme, la Bible nous montre que dans les temps de la fin, les temps dans lesquels nous vivons, cet égoïsme va augmenter. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5, la Bible nous définit les temps de la fin. Et il y a trois termes qui parlent de ces choses centrées sur soi-même. Premièrement, il est dit les gens seront égoïstes. La Bible dit dans les derniers jours, vous aurez des temps difficiles. Et pourquoi? Parce qu'il y aura une qualité des gens. Et cette qualité des gens, on dit des gens égoïstes, centrés sur eux-mêmes, centrés sur leurs besoins. Mais deux autres termes sont utilisés. Ils seront insensibles. Ils voient la douleur de l'autre, ça ne lui dit rien du tout. Ils voient les malheurs de l'autre, ça ne lui dit rien du tout. Insensible. Et la Bible ajoute encore un autre terme, cruel. Cruel. J'ai eu mal un jour, j'ai suivi un documentaire, deux documentaires que j'ai suivis en deux ou trois jours différents. Non, un documentaire, puis il y avait un élément qui l'on faisait passer aux infos. On a montré des jeunes gens qu'on a arrêtés à la commune de Kinshasa. En tenant des sachets, supposés être cette eau qu'ils utilisent pour perfuser. Et ils ont expliqué comment ils utilisaient les robinets de derrière pour mettre cela. J'aime l'argent. Je veux avoir l'argent pour payer les minervales de mes enfants, pour répondre aux besoins. Mais je n'aimerais pas avoir l'argent à ces prix-là. Ils ne pensent même pas que vont devenir ces gens qui vont faire rentrer cette eau. Ça leur dit rien du tout. Ce qui compte, c'est ma satisfaction. Et j'ai suivi ces documentaires qui m'ont rendu triste. On a parlé des usines qui se trouvent au Nigeria, où l'on fabrique des faux médicaments, avec aucun principe actif. On vous dit c'est un antibiotique, mais dedans ils mettent de la poudre foufou. J'ai dit je veux gagner l'argent. Mais est-ce qu'on peut gagner l'argent à ce prix-là? J'ai vu d'autres, on a dit c'est pénicilline. On va mettre l'eau et on va piquer des gens de la poudre de blé. Et quelqu'un est assis calmement, il se fait riche, il bâtit des fortunes sur les malheurs des autres. Égoïsme. Égoïsme. Égoïsme, on fait qu'à quelque endroit, les gens sont 52 mois impayés. Et d'autres du cercle de direction, cercle administratif, ils se tapent des salaires des pachas. Ils sont à 10, ils sont à 12. Tous les travailleurs de quelques offices n'ont pas leur salaire, 52 mois. Ils sont même quelquefois obligés de faire des marches avec un cercueil. Et pour le calmer, on leur donne un petit mois. Et pourtant, c'est leur dû. Dans les derniers jours, égoïsme, insensibilité, cruauté. Deuxième absolu, c'est que sans Christ dans notre vie, on ne peut avoir la justice. Et surtout pas l'expérimenter. C'est lui, et lui seul qui la dépose dans notre cœur. C'est lui, et lui seul qui nous rend capables d'être conscients des besoins de l'autre. La faim et la soif de la justice ne peuvent qu'être expérimentées par des personnes qui ont Christ comme Seigneur et Sauveur. Savez-vous que même déjà la faim ainsi que la soif physique ne peuvent l'expérimenter que les gens en bonne santé. Est-ce que vous n'êtes pas rendu compte des fois quand vous êtes malade, vous n'avez même pas faim. Vous manquez d'appétit. Ah, je me souviens quelquefois quand je faisais la malaria, tout devenait insipide. J'ai même pas faim. L'eau, je n'en veux même pas dans ma bouche. Et si c'est vrai que la faim ainsi que la soif ne peuvent être expérimentées que par des gens en bonne santé, et que la maladie empêche d'expérimenter cela, la faim et la soif de la justice ne peuvent être expérimentées que par des gens en bonne santé spirituelle. Ceux qui sont malades spirituellement ne peuvent jamais ressentir cela. Ne peuvent jamais ressentir ce désir de faire du bien à l'autre. Si vous avez toujours été égoïste, si l'autre avec ses besoins n'a jamais existé, en couple, en famille, au travail. Je n'ai pas honte de vous regarder dans les yeux, vous dites, vous êtes malade. Malade spirituel, malade moral. Et vous avez besoin de guérir. Malade. Et notre monde à nous est rempli de malades. 1 Jean chapitre 2, verset 29. Ainsi que 1 Jean chapitre 3, verset 10. Lit la pratique de la justice à l'appartenance à Dieu. Quiconque pratique la justice est né de Dieu. D'autres versions disent, ne peut pratiquer la justice que celui qui est né de Dieu. Ne peut pratiquer la justice que celui qui est né de Dieu. Voilà pourquoi à une certaine époque, on était secoué dans un certain pays. Comment on pouvait classer des gens d'une certaine catégorie et d'autres, on disait que c'était des citoyens de seconde zone. Et ces gens allaient tous à l'église. Il y a encore quelques années, en Afrique du Sud, certains qui se disaient chrétiens supposaient que d'autres étaient des sous-hommes. Celui qui est né de Dieu, lui seul peut pratiquer la justice. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus, car celui qui n'aime pas son frère ne connaît pas Dieu. Luc chapitre 1, verset 75, nous présente la justice comme étant la conséquence de la délivrance et de la puissance du malin. Celui qui a été délivré de la puissance du malin, il dit, il marche dans la sainteté et il marche dans la justice. Donnons-nous des hommes et des femmes qui ont faim et soif de la justice. Isaïe chapitre 61, verset 8, nous montre que Jéhovah aime et encourage la justice. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Jérémie chapitre 22, au verset 3, Dieu va dire à son peuple, pratiquez la justice ainsi que l'équité. Dans Michée, au chapitre 6, au verset 8, un merveilleux passage où les prophètes parlent de la part du Seigneur. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu penses à l'autre avec son besoin. Non seulement que la nouvelle naissance nous qualifie et nous encourage à poser des actes de justice, mais il nous faut en faire une quête. Prendre conscience des besoins, prendre conscience des droits des autres et choisir d'aller dans cette direction. Dans 1 Timothée chapitre 6, au verset 11, ainsi que dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 22, waouh, l'apôtre dit ceci, « Pour toi, homme, recherche la justice. Fais-en une quête. » Recherche, cherche à satisfaire les besoins des autres. Je prie qu'au sortir de ces cultes, que certains changent les salaires de certaines personnes. Je prie qu'au sortir de ces cultes, que quelqu'un change dans sa manière d'être. Et les gens qui pratiquent la justice, ils ne peuvent la pratiquer parce qu'ils la connaissent. Et ils ne peuvent pas non plus la connaître si personne n'en parle. C'est pourquoi nous en parlons. C'est quand nous en parlons que les gens peuvent pratiquer. C'est là. Dans 2 Pierre au chapitre 2, verset 5, il nous est parlé de Noé. Il y a dit de lui qu'il était prédicateur de la justice. Il a parlé du droit des autres et la justice a habité sa maison. Isaïe chapitre 51, verset 7, il dit, écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, donnez-nous à Philadelphie des hommes, des femmes, des maris, qui connaissent la justice, et parce qu'ils la connaissent, ils la pratiquent. Ésaïe chapitre 16, au verset 5, parle d'être zélé pour la justice, mettre l'ardeur, mettre la passion pour la justice. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes justes. Mais en terminant ce matin, j'aimerais dire cette dernière chose. Là où la justice est, elle enrichit non seulement les individus, elle enrichit les groupes d'hommes et amène une qualité de vie. J'aimerais répéter cela. Là où la justice est, elle enrichit les individus, les groupes d'hommes et amène une qualité de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela aussi veut dire que là où elle est absente, cela se fait ressentir. Il y a des symptômes qui démontrent son absence. Dans Ésaïe chapitre 32, au verset 17, la Bible dit, l'œuvre de la justice sera la paix. La justice attire toujours la paix. là où l'on reconnaît les droits de l'autre et les droits des autres, il y a la paix, il y a la calmie dans les couples, dans la société, dans un pays. Là où l'on reconnaît les droits des autres. Aujourd'hui, nous, le peuple, nous souffrons parce qu'on ne reconnaît pas les droits d'une certaine catégorie de personnes, policiers et militaires. 7 mois, 12 mois non payés. Alors qu'entre-temps, il a entre ses mains un instrument qui peut l'aider à se payer lui-même. C'est parce qu'on ne reconnaît pas leurs droits. Quand ils nous rencontrent la nuit, il dit « Bluetooth, il go up ». Simplement parce qu'on ne reconnaît pas leurs droits. Tu lui présentes tous les documents, il te demande où est la carte de baptême. Autrefois, pour vous montrer que je suis d'avant-hier, nous, quand on grandissait, quand on rencontrait un policier, un militaire la nuit, on était content. On s'est dit, je suis en sécurité. Tu rentres même à 22h, 23h, tu vois un policier, tu dis, waouh, je suis bien. Mais désormais, quand tu avances, il y a bien Zambenangaï. Ma bénine, la salle pour n'écouter un abattoir. Parce qu'ils vont bien te vider les poches. Et tu répargnes en rien, simplement parce qu'il y a injustice. Ils étaient suffisamment bien payés comme autrefois. Les choses se passeraient bien. Autrefois, quand on grandissait, les élèves, quand ils allaient à l'école, il y avait un cours. On nous demandait de faire une petite maisonnette. Comment on appelait ça? Travail manuel. Aujourd'hui, vous avez les enfants qui viennent. Papa, il y a travail manuel. Le prof a dit, il faut amener 10 dollars. Nous, on a amené une maisonnette. Un triangle qu'on a essayé de faire. Travail manuel, 10 dollars. Pourquoi? Parce qu'on ne les paye pas. Et ils veulent se payer. L'œuvre de la justice sera la paix. Et les fruits de la justice sera les repos et la sécurité pour toujours. La justice apporte les biens et enrichit à plusieurs niveaux. Proverbe 21, verset 15, ainsi que 21 dit, « C'est une joie pour les justes de pratiquer la justice. » Et le verset 21 dit, « Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie. » Une autre version dit, « Trouve une qualité de vie. » Proverbe 16, verset 31 dit, « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans les chemins de la justice qu'on la trouve. » On présente même la longévité comme étant quelque chose causé par la justice. Tu reconnais tellement les droits des autres que tu as très peu d'ennemis. Mais tu fais tellement du mal que tu as des ennemis partout, tu auras difficile à vivre longtemps. Le jour où tu tombes, les gens sablent les champagnes. Je suis arrivé dans un lieu de travail, un chef prétendu chrétien, ses travailleurs l'appelaient esprit des morts. Terrible. Proverbe 29, verset 4 dit, un roi a fermé le pays par la justice. Celui qui est devant, il rend son royaume fort. Une autre version dit, un roi assure la prospérité de son pays lorsqu'il respecte les droits. Le semeur dit, un roi qui gouverne selon la justice donne de la stabilité à son pays. Pas d'inégalité entre provinces, entre tribus. Quand tu es PDG et que ton nom commence par O, ta secrétaire, toi tu es Okito, ta secrétaire sera Omasombo. Ton huissier sera Omeonga. Ton chargé de relations publiques, ça sera Okibesombo. Les O, 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 O. Quand quelqu'un est déchet quelque part, lui c'est Chishima. Chargé de relations publiques, Kabongo. Chargé de mission, Chishimbi. Chargé des achats, Chimini. Celui qui amène les signatures, Kabatumbi. Et on sait savoir d'où ils viennent. Seigneur, donne-nous un pays où on s'est oublié. Ça va vous étonner. Ça fait plus de 10 ans que je connais le pasteur Atoms. Ça fait 5 ans qu'il est mon collaborateur. Je ne connais pas sa province, ni sa tribu. Je ne veux même pas connaître. Papa, ok, bah, t'as besoin d'église, mais J'ai jamais oublié. La première fois que je suis rentré à l'Assemblée générale de notre communauté, j'ai été choqué. En 93, j'arrive, je pensais des hommes spirituels. Quand j'entre, un papa m'accueille des colonies. Quelle est ta tribu? J'ai dit, ah papa, j'ai dit, papa, ici, il n'y a pas un problème de tribu. Il me dit, moi, je suis au Kabo. Lingombo est tombé dans ma kila, il y a Yesu, il y a moi dans mon Congo. Cette communauté est bâtie sur le sang de Jésus et le sang des gens d'Engueba et l'Ef. Un roi qui gouverne selon la justice donne de la stabilité à son pays. Donnons-nous quelqu'un, lui, de l'Est, son officier de l'ordonnance et de l'Ouest. Celui qui tient son sac du Sud. Il voit les compétences. Donnons-nous un pays où on ne juge pas les gens selon les tribus, mais selon les compétences. Combien de tests se font superficiellement? Les tests faits pour être faits. Chichimbi a déjà engagé Kabongo. Mais il fait seulement les tests. Hein? Mais nous-mêmes, nous savons que c'est la cesse, que la justice domine. Des bourses arrivent. On doit envoyer des étudiants à tel ou tel autre endroit. Les méritants sont là, mais on ne les envoie pas. On envoie ceux de sa tribu. Et qu'est-ce qu'on peut espérer d'une nation comme ça? Justice. Proverbe 14, 34 dit, la justice élève une nation. La justice élève une nation, mais les péchés et la honte de peuple. Que mon pays pratique la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. J'aimerais qu'on se tienne la main dans la main. On va faire juste cette double prière alors que le pasteur Alain vient pour clore. Seigneur, place dans mon cœur la faim et la soif de la justice. Mais nous allons aussi prier pour notre nation en disant, Seigneur, que la justice soit distributive à tous les niveaux. Des fois, nous condamnons les dirigeants, mais des fois, nous-mêmes, les petits peuples, nous manquons cette vertu. J'aimerais que nous puissions prier dans ces deux directions. Lèvons-nous tous, s'il vous plaît. Tenons-nous la main dans la main. Prie pour toi-même, prie pour ton voisin, ta voisine. Seigneur, place en lui, place en elle la faim et la soif de la justice. Place en moi, place en mon voisin, en ma voisine, la faim et la soif de la justice. Mais Seigneur, que la justice revienne dans cette nation. Élevons nos voix, prions dans ces deux directions, et puis l'homme de Dieu va venir clore.